Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Europe 1 écoute le monde changer et ses vertus chaque jour à vous le raconter. À 10h, le samedi, c'est le temps de prendre son temps et un peu de hauteur jusqu'à 11h. Bonjour et bienvenue au débat des grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Gérard Carrérou, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
Au menu aujourd'hui, l'annonce de la semaine.
Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022.
La candidature de Xavier Bertrand sème la zizanie à droite. Votre décryptage à suivre les grandes voix avant son interview événement demain sur Europe 1 au grand rendez-vous à 10h. Deuxième thème du jour, le Covid, de plus en plus incontrôlable en France. Mais Emmanuel Macron toujours droit dans ses bottes.
Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure.
Et puis la polémique de la semaine, le financement par la ville écologiste de Strasbourg d'une grande mosquée.
Moi, mon mot d'ordre, c'est pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République.
Les ennemis en question évoqués par Marlène Schiappa, c'est une fédération turque derrière cette mosquée qui refuse de signer la charte des valeurs de la République. Depuis, la polémique enfle avec en arrière-plan les tentatives d'ingérence turque sur la prochaine élection. Menace non voilée selon Emmanuel Macron. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti, bienvenue. L'avantage des grandes voix historiques d'Europe 1, c'est qu'elles observent la vie de la 5e République depuis des décennies. Alors à 13 mois maintenant de la présidentielle de 2022...
Depuis 50 ans, dites-le quoi. Ouais,
j'ai voulu rester simple.
Mais nous n'avons pas vécu le départ de Clémenceau et l'assassinat de Jean Jaurès.
C'était bien de le préciser. En tous les cas, à 13 mois de la présidentielle de 2022, on a très envie de vous entendre sur la candidature de la semaine, celle de Xavier Bertrand. Ce n'est pas une surprise, mais ça provoque des remous, on va y revenir. Mais d'abord, Catherine Ney, sur la forme, sur le timing, une longue interview dans Le Point, en pleine troisième vague du Covid, est-ce que c'était le bon moment ?
Ça, s'il l'a choisi, c'est qu'il a pensé qu'il l'était. Ça, c'est son choix. Mais enfin, on voit qu'il est passé de la tentation ferme, parce qu'on savait depuis longtemps que l'idée le démangeait. Il ne le cachait à personne, mais peut-être que les Français ne le savaient pas encore, au passage à l'acte. Donc, il dit « je serai candidat, je ne passerai pas par les primaires ». Vous voyez ? Et donc, il fait don de sa personne à la France. Voilà. Mais vous savez, une élection, c'est une question de désir. Lui, il a envie d'être président. Il le marque. Et il s'en donne les moyens. Il vient de là, d'être un projet présidentiel qu'il évoque déjà dans le Point. C'est un programme de droite. On y reviendra tout à l'heure.
Oui,
très bien.
Absolument.
Il est sur le désir. Le problème, il faut qu'un désir soit réciproque en politique. C'est-à-dire, est-ce que cette annonce...
Comme un amour.
Voilà. Ça va susciter quoi ? Est-ce que ça va susciter l'intérêt peut-être ? Je veux dire, est-ce que des Français vont se dire, eh ben ça y est, on est là, c'est lui qui remplacera Macron, c'est pour ceux qui ne veulent plus voter Macron. Hein ? Et puis surtout, on voit qu'il gagnerait peut-être plus de voix face à Marine Le Pen, il passerait mieux qu'Emmanuel Macron.
57% selon un sondage.
Bon, il a choisi ce moment, c'est son moment, je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais voilà.
Gérard Carrérou.
Je crois qu'il vaut mieux être le premier sur une bonne affaire que le dernier sur une mauvaise. Alors là, il part effectivement, il a l'avantage de celui qui part d'abord. Et je crois que vu son gabarit à lui, sa personnalité à lui, c'est peut-être la bonne idée. Bon, il a un programme...
Qu'est-ce que tu veux dire par gabarit ?
Je veux dire le gabarit, je vais y venir. Le gabarit pour moi, c'est qu'actuellement, on ne peut pas le considérer comme un candidat poids lourd. Dans la vie politique, il y a des poids lourds, des poids moyens et des poids plumes. Bon, il est, lui, aujourd'hui, un poids moyen. Il a une expérience, pour des tas de raisons. C'est donc pas encore un poids lourd. Donc, c'est vrai, si tu veux, c'est ça ce que j'appelle le gabarit. Mais par rapport à l'ensemble, il a un programme sérieux, on en parlera, un positionnement clair, anti-Macron d'un côté, anti-Le Pen de l'autre. Il a une stratégie, bon, pas de primaire, etc. L'homme du peuple contre les élites, c'est l'agent d'assurance contre les énarques. Et sa faiblesse, à la fois, c'est ce que je viens de dire, c'est pour ça que je le gardais pour la fin, sa faiblesse, c'est d'être un poids moyen. Parce qu'il y avait dans le temps des poids lourds, tout de suite, on sentait un Mitterrand, on sentait que ça serait un poids lourd. Un Chirac, on sentait quand même que ça serait un poids lourd. Un Sarkozy aussi. Lui, pour l'instant, on ne sent pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'acquérir.
Un poids moyen à 14% dans les sondages, qui n'est pas l'homme providentiel de la droite, Michel
Cotta.
Non,
mais d'autant que des poids moyens...
Non, il y a plus de 14%.
Il est à plus de 14%
entre 14 et 16.
Non, mais des poids moyens, c'est plutôt ça qui existe en ce moment. à l'intérieur de la droite et comme d'ailleurs à l'intérieur de la gauche. Il n'y a personne qui se détache.
Dans le magasin, il n'y a pas beaucoup de poids lourds.
Et c'est justement pour ça, et c'est justement pour ça qu'il a choisi de se déclarer là maintenant. Et moi, je trouve que c'est un candidat quand même plus assez sérieux dans la mesure où c'est le premier, il a foncé, c'est ce qu'il fallait faire, à mon avis, pour lui. Deux, c'est effectivement l'homme qui a choisi le territoire, en disant « non, Paris et tout ça, j'en veux plus, ça compte beaucoup en ce moment ». Et bon, on verra, le problème c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Il faut que son appel soit entendu, que ça rebondisse sur quelque chose, et au fond... Quel est notre juge à tous et quel est son juge ? Ce sont les sondages.
Et l'élection, et quand même, la plus d'assurabilité, oui. C'est l'élection où il est candidat, c'est-à-dire les régionales.
Oui, mais enfin, déjà, vous voyez, il est un poids moyen, mais audacieux, parce qu'il ne tourne pas cette fois autour du lit pour écarter les vols du baldaquin.
Charles Villeneuve, justement, sur l'élection régionale, dont il avait fait un préalable avant sa candidature à la présidentielle. On sait que demain, le Conseil scientifique va donner son avis au président de la République pour un report éventuel. Le fait qu'il annonce sa candidature maintenant, c'est une façon de damer le pion à Emmanuel Macron ?
Non, mais c'est un poids moyen, en effet, déterminé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans son programme, c'est la manière dont il l'a élaboré. Nous l'avons rencontré avec Catherine assez longuement. Je l'ai rencontré une deuxième fois, notamment sur ces mesures dont on parlera tout à l'heure, ce qu'il propose. Il est déterminé en ce sens où il a fait mesurer chacune des propositions qu'il fait. Et surtout, pour convaincre, si vous voulez, l'électorat qui est assez désabusé aujourd'hui par rapport aux promesses électorales et à la réalisation de ces promesses, c'est qu'il fixe un mandat unique de 5 ans pour convaincre les gens qu'il ira vraiment jusqu'au bout et qu'il exécutera ses promesses. On verra, bien sûr, s'il est élu, bien évidemment. Mais il est parti tôt, justement parce que c'est un poids moyen, comme le faisaient remarquer mes camarades, parce qu'il veut habituer l'électorat d'abord de son camp, c'est-à-dire des Républicains, qu'il a quitté et qu'il faut quand même, avec lesquels il faut qu'il se réconcilie aussi. C'est une difficulté non négligeable sur ce plan-là. Et il a convaincu quand même des poids lourds de son parti, puisque des gens comme Éric Woerth, qui est quand même plutôt proche, me faisait remarquer tout à l'heure Gérard Carrérou, de Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, appuie et approuve son départ de candidature.
Alors, sauf qu'il y a aussi beaucoup de critiques. Écoutez par exemple Aurélien Pradier, secrétaire général LR.
Avant de vouloir rassembler les Français, il faut aussi faire en sorte de rassembler sa famille politique. Moi, je suis aujourd'hui secrétaire général des Républicains. Xavier Bertrand a quitté notre famille politique. Bien désormais, s'il veut rassembler les Français, il lui faut trouver les moyens de rassembler sa famille politique.
Aurélien Pradier, chez nos confrères de France Info, rassembler la famille de la droite quand on l'a quitté, comme vous le disiez, Charles Villeneuve, en 2017, c'est compliqué.
Oui, mais la mettre aussi.
Sa famille, ça, c'est du juridisme politique.
La mettre aussi devant le fait accompli, c'est pas mal, parce que maintenant, se pose quand même le problème des primaires. Alors, je sais que Valérie Pécresse a rencontré Xavier Bertrand, justement, en lui disant d'accepter les primaires, etc. Xavier Bertrand a dit non. Alors maintenant, ça met les Républicains devant des primaires qui ne peuvent pas avoir lieu avant septembre-octobre. Et à ce moment-là, si Xavier Bertrand est très haut, d'un seul coup, on lui découvrira chez les Républicains des vertus en disant qu'il n'a jamais rompu avec les siens, etc.
Et il aura pris une avance qu'on dira qu'il a bien joué.
Et si dans l'intervalle, il n'a pas marché, ça ne résout pas le problème de la droite, parce que je leur donne bien du plaisir à faire des primaires, alors qu'on a le souvenir des primaires terribles et des primaires en septembre-octobre, alors que l'élection aura lieu 6 mois plus tard.
C'est pour ça qu'il a bien fait. Je disais, le premier sur une bonne affaire, ouais. Je pense que pour la droite, c'est une bonne affaire, l'élection présidentielle, s'ils l'ont perdue déjà 2 fois. Alors, s'ils ne veulent pas faire jamais 203, ils ont intérêt à se dépêcher. Mais là, il a pris de l'avance. Oui. Il a pris de l'avance, réellement. Et sauf, alors il y a une hypothèse qu'on ne pourra jamais écarter, jusqu'au dernier moment, c'est l'homme providentiel. Il y a eu un moment donné, il y avait Nicolas Sarkozy qui incarnait ça dans la coulisse. Aujourd'hui, il y a Édouard Philippe qui peut incarner ça dans la coulisse. Mais à part l'homme providentiel, qui n'est pas forcément fatal, il est d'ores et déjà, à mon avis, il a gagné quelque chose.
Et il a raison, de vouloir renoncer aux primaires. Parce que les primaires, pour un camp, c'est très, très dangereux. D'abord parce qu'on se bagarre entre soi, on se dit les uns les autres des choses que même l'opposition n'aurait pas dire, et qu'après, la famille est complètement cassée. Ça crée des brisures et ça crée le séparatisme. La primaire, c'est le séparatisme.
C'est pour ça que la détermination, c'est pour ça que la détermination est très importante là-dedans. Tant qu'il est déterminé à se présenter... Alors, il faudrait que la primaire désigne quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre se présente contre lui. Ce qui n'est quand même pas envisageable pour la droite.
Non, mais il a quand même une difficulté, justement, parce qu'il est candidat. Sa primaire à lui, ce sont des régionales. Bon, à partir du moment où il gagne, c'est ce qu'il a dit.
C'était un préalable, absolument.
C'était son préalable. Cela étant, les régionales peuvent être parfaitement reportées, puisque pour une raison, si vous voulez,
sanitaire,
celle de la pandémie, et c'est une bonne raison. Mais elles ne peuvent pas être reportées après, durant 2022. Parce qu'à ce moment-là, les présidents de région seraient, ils ont un mandat de 6 ans, ils seraient quasiment à 7 ans, 8 ans. Et ça, c'est inconstitutionnel.
Alors, on en reparle.
Et donc, ces régionales devraient se faire peut-être à l'automne prochain.
C'est-à-dire juste avant la présidentielle.
C'est ça.
On en reparle juste après, avec notamment le fond du programme qu'il évoque dans cette longue interview au Point Xavier Bertrand, juste après cette première pause. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Le débat des grandes voix jusqu'à 11h avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta. Il a fêté ses 56 ans il y a moins d'une semaine. Il fut le porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle victorieuse de 2007. C'est Xavier Bertrand qui a annoncé sa candidature officielle à la présidentielle cette semaine. Longue interview dans Le Point dans laquelle il dit notamment « Un président ne peut pas être normal, mais il ne doit pas se prendre pour un dieu ». On a bien compris que Hollande et Macron étaient dans le viseur.
Personne n'a pris Hollande pour un dieu.
Non, mais pour un président normal, c'est ce qu'il disait.
Non, oui, d'accord.
Sur le fond, Xavier Bertrand se veut le chantre d'une droite sociale et populaire, l'héritage du gaullisme social, sauf que lorsqu'on lit ses propositions dans Le Point, elles sont quand même très marquées à droite, très régaliennes.
Ben, c'est du gaullisme social qui s'est adapté à la société d'aujourd'hui. Parce que les problèmes, je prends par exemple les problèmes de sécurité, il a des propositions très précises sur les problèmes de sécurité et de terrorisme, il est clair que ces problèmes-là ne se posaient pas tout à fait de la même manière à l'époque du général de Gaulle. Donc on ne peut pas lui reprocher. Ce qui compte, c'est la démarche. Il veut une démarche gaulo-sociale. Ça, c'est une démarche générale. Sur les mesures en particulier, je dis, elles sont effectivement à droite. Ce sont des mesures de droite, je prends la sécurité, elles vont toutes dans le sens de ce que réclamaient un certain nombre d'hommes politiques de droite depuis déjà des années. Les peines quasi automatiques pour un certain nombre de cas, la période de sûreté à se porter à 50 ans pour des jeunes terroristes, dit-il, qui sont aujourd'hui des gens de 20 ans qu'il faut mettre hors d'état de nuire, et ainsi de suite.
Alors, son analyse, vous avez bien remarqué que dans son texte, il n'y a pas tellement d'allusion à la pandémie. Son analyse, c'est que ça n'est pas là-dessus, au fond, que Emmanuel Macron sera attaqué. Mais ce sera sur le régalien. Donc c'est sur le régalien qu'il a fixé son attaque, et avec effectivement la retraite à 65 ans, c'est volontairement qu'il a choisi cet angle-là pour attaquer Emmanuel Macron.
La restauration de l'autorité, Charles Villeneuve, l'intransigeance sur nos principes et nos valeurs, dit-il, l'autorité dans un pays gangréné par l'insécurité et la violence, ce sont ces mots.
Non mais, quand vous dites très à droite, le gaullisme c'est d'abord l'ordre, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'abord le régalien, c'est l'autorité.
C'est pas lâcher en lit, quoi.
C'est l'autorité, c'est pas lâcher en lit, exactement, selon le mot du général, par en rapport 68. À mai 68. Absolument. Et c'est le social aussi. Ça, on ne peut pas enlever quand même à Bertrand sa dimension sociale. Il l'a montré dans tous les postes qu'il a occupés, notamment ministériels.
Et il en reparle avec sa République des territoires.
Exactement. Et il a très bien compris qu'aujourd'hui, de toute façon, l'excès de centralisation, on le voit dans l'organisation, notamment de la campagne de vaccination, et dans le fait que les maires montent au créneau, comme le maire de Cannes, quand même, David Lisnard, etc., qui a 4000 doses et qui veut étendre cette vaccination et pas la limiter simplement aux plus de 70 ans. Parce qu'il est bien évident qu'il y a des tas de gens de 50 ans qui sont en première ligne, qui ne sont pas seulement en deuxième ligne, notamment sur le plan de cette pandémie. Et donc, C'est pour ça qu'il parle de la République des territoires. C'est assez intéressant parce que chacune des mesures a été profondément étudiée. Quand je dis étudiée, ce sont des études, si vous voulez, non pas de marketing, mais des études sondologiques, si j'ose dire, et qui ont été faites et qui correspondent quand vous allumez la radio, que vous allumez la télévision et que vous lisez les journaux, vous voyez très bien que c'est l'une des premières préoccupations des Français. Parce qu'il part du principe, comme le sous-entendait notamment dans sa remarque Michel Cotta, il part du principe que le Covid sera derrière nous. Enfin, j'espère qu'il a raison, et pour tout le monde.
Alors, vous parliez des mesures régaliennes, il y a aussi les mesures économiques que vous avez commencé à esquisser. Michel Cotta, il promet de ne pas augmenter les impôts, de rallonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans et de rembourser, Catherine Ney, la dette Covid. Il faut être sérieux, dit-il, en cette matière. C'est une espèce de petit tacle à Arnaud Montebourg, avec qui il avait échangé ces derniers temps, dont on se demandait s'il y avait rapprochement ou pas.
La France Insoumise, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, dans un État qui est endetté, on rembourse. Alors, on rembourse la question sur combien d'années. Mais alors, de toute façon, il va falloir rembourser, ça c'est vrai, il ne peut pas dire le contraire. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen le dit, mais elle, il faut dire aussi, elle est très endettée, donc elle le dit pour ne pas faire peur à ses...
Cela étant, il s'attaque à un sacré dossier, avec évidemment le travail à 64-65 ans. Là, il y aura du fil à retordre.
Oui, c'est par étapes.
Mais aussi, il prévoit la participation. Il prévoit une participation.
Laurent Berger, etc., ne sont pas encore sortis. Et compagnie ne sont pas sortis du bois, et ça va être quand même un sacré dossier.
Le seul bémol pour la déclaration de Xavier Bertrand, c'est, on voit l'angle d'attaque de ses adversaires sur la région. Par exemple, quelqu'un comme Sébastien Chenu, qui représente le Rassemblement national, dit tout de suite « Ah ben alors on va l'attaquer sur le fait qu'on ne peut pas être président de région, dire qu'on se présente à la région et après laisser tomber la région pour aller à Paris ». C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui va être exploité par ses adversaires sur le terrain.
Même par ceux, ça va être exploité, y compris par les socialistes dont beaucoup lui faisaient dire « Écoutez, on votera pour vous ». Parce que c'est vrai qu'il y a une alliance derrière une candidate verte, il y a quatre...
De toute la gauche.
Gauche, mais on sait très bien que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fera pas 4. Que la personnalité de cette dame est suspectée par par des gens de gauche qui ont signé et qui voteraient et qui étaient disposés à voter pour...
Ils l'ont déjà fait
disposés à le faire parce qu'il a acquis une réputation de bon gestionnaire, de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il est apprécié dans sa région. Et peut-être que là, ça va être un bémol. Les gens vont dire, il nous lâche. Quoi. On est déçus.
Oui, alors justement, vous avez dit, je ne sais plus si c'est Charles ou si c'est Catherine, ou Michel d'ailleurs, je ne sais plus. Je vous écoute, mais
en même
temps...
Ça a été dit par une grande voix.
Dit par l'un ou l'une d'entre vous. Et il y a peu de choses sur la Covid et la maîtrise et la gestion. C'est toi. Bon, rendons à Michel.
Moi, j'ai rien dit.
Mais en fait, vous dites, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que la manière dont quelque part, les gens comprennent très bien. Quand ils dénoncent le parisianisme absolu de la République, quand il dit qu'il faudra déparisianiser la République, quand il parle effectivement de cette République des territoires qui fait mieux le boulot que la République centralisée avec sa fonction publique qui, pour l'instant, bon, c'est une manière d'attaque. Et c'est vrai qu'il, c'est au fond, quand je disais tout à l'heure qu'il avait un programme un peu sérieux, c'est un Girondin maîtrisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour la décentralisation simplement, mais pour une vraie politique des territoires. Donc, et ça, il l'incarne dans sa région. Il devrait l'incarner dans sa région.
Vous voyez, Sébastien, vous disiez de toute façon que nous avions assisté à beaucoup de moments historiques. Oui. Là, nous remontons à la Convention.
Merci les grandes voix pour ce premier débat consacré à Xavier Bertrand et sa candidature à la présidentielle. Je vous rappelle, bien sûr, que c'est l'événement de la fin de semaine. Demain, Xavier Bertrand, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Ce sera à partir de 10h. Dans un instant, le deuxième débat du jour. Emmanuel Macron qui refuse tout mea culpa dans sa stratégie Covid. Est-ce que ça peut tenir? Je vous pose la question dans un instant.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.